On va donc continuer avec les registres et les registraires. Et notre speaker et notre orateur est Steve Gorbin, qui va parler des bases, des registres et des registraires. Oui, est-ce que ça marche mon micro? Oui. Oui, ça va être concentré sur les registraires. Et puis ensuite, on parlera un peu plus des registres. On va commencer dans une minute. Okay. Lorsque quelqu'un veut inscrire un nom de domaine, je vais focaliser sur les GTLD, sur les noms de domaine GTLD avec les extensions comme .net, .com, .info. Il y a des parties différentes qui sont donc incluses, engagées. En haut de la pyramide, vous voyez le registre, ce qui représente l'organisation qui fait marcher les TLD. Le TLD sont les domaines de premier niveau, ce que vous avez à droite du point. Michael Ikana vous en parlera plus spécifiquement quand il parlera des registres et comment ça fonctionne et ainsi de suite. Dans tous les cas, pour tous les GTLD, et c'est aussi le cas pour un bon nombre de noms de pays, des domaines de premier niveau, quand vous voulez inscrire un nom de domaine, vous ne faites pas une requête directe au registre. Il y a quelqu'un au milieu qui s'appelle le registraire. Donc, pourquoi y a-t-il un registraire? Pourquoi ce ne serait pas possible dans la plupart des cas d'aller directement vers le registre, même si c'était possible? Pourquoi est-ce que c'est une plus-value d'enregistrer un nom de domaine à travers un registraire? En premier, c'est parce qu'il y a un choix entre beaucoup de registraires. Il y a donc une compétition, une concurrence entre eux, ce qui veut dire qu'un registraire qui correspond à certains consommateurs et avec des prix moins chers. Quand vous inscrivez un nom de domaine, c'est pas que vous voulez seulement un nom de domaine. Le problème, c'est que si vous inscrivez un domaine directement avec le registre, si c'était donc possible de faire comme ça, en tous les cas, vous auriez juste un nom de domaine avec rien d'autre. Mais la plupart du temps, vous êtes redirigé vers un site qui existe déjà, vous voulez faire l'autre, vous voulez avoir un nom de domaine. C'est pour ça que vous allez utiliser un registraire, parce que beaucoup d'entre eux fournissent ce genre de service que vous pouvez acheter avec votre nom de domaine. Comme cela, votre nom de domaine est déjà prêt à utiliser. Donc, vous ne faites pas seulement un enregistrement d'un nom de domaine, mais vous achetez un paquet entier. Vous achetez le... Non. Vous aurez donc aussi un soutien dans votre langue, dans votre réseau horaire. Vous n'auriez pas ça si vous enregistriez directement avec un registre. Vous devriez aussi prendre en compte le réseau horaire du registre, le langage local, peut-être deux ou trois autres langues. Donc, mais si vous utilisez un registraire, vous pouvez choisir votre registraire, celui qui correspond à l'endroit où vous êtes, qui correspond à vos besoins, qui peut vous fournir un soutien dans votre langue, dans votre réseau horaire. Et un autre avantage, bien sûr, c'est que si vous voulez inscrire beaucoup de noms de domaine avec des noms de premier niveau après le point, la plupart des registres sont des registres pour un TLD, peut-être plus des fois, mais la plus, Mais si vous voulez, par exemple, enregistrer, par exemple, un nom de domaine avec 20 différents TLD, si vous choisissez un registraire qui est accrédité pour tous ces TLD, alors là, vous serez capable d'inscrire tous vos noms de domaine au même endroit. C'est aussi donc un avantage pour vous. Donc, il y a d'autres bénéfices. Faire l'enregistrement, l'inscription à travers un registraire. Alors, qui peut être un registraire? Si on considère les noms de domaine génériques, toutes les entités qu'ils peuvent devenir, qui veulent venir devenir des registraires, doivent être accréditées avec l'ICANN. Je ne vais pas expliquer le processus pour devenir accrédité avec l'ICANN. C'est pas le but de cette présentation. Mais si vous avez des questions à ce sujet, venez me voir. Je suis là jusqu'à vendredi matin. Donc, la compagnie doit être donc accréditée par l'ICANN et ensuite, une fois qu'elle est accréditée, elle doit entrer dans un accord avec le registre qui, le TLD qui intéresse le registreur. Et quand on parle des CCTLD, les codes pays, vous n'avez pas besoin d'être accrédité avec ICANN pour être un registreur de CCTLD. L'accréditation, c'est juste pour les GTLD. Vous devez donc contacter le registre qui correspond. Et un bon nombre de registres, d'opérateurs de registres de CCTLD ont adopté un système dans lequel il faut passer à travers un registraire. Et pour les CCTLD, chaque opérateur détermine les règles et les procédures à suivre pour l'accréditation des registraires. Dans les relations contractuelles, on va revenir sur la première diapo. Vous voyez donc le registre, le registraire, le registrant. Comme vous voyez, il y a un accord entre le registre et le registraire qui s'appelle le contrat, l'accord registre-registraire. Quand vous inscrivez un nom de domaine, vous allez commencer un accord de registration avec le registraire. Et après, quand il s'agit des CCTLD, et c'est là où ICANN rentre en jeu. Chaque opérateur rentre dans un accord avec ICANN, avec ICANN. Et c'est là aussi, c'est le cas aussi de chaque registraire accrédité d'ICANN. Ils ont entré donc dans un accord avec des obligations incluses. La plupart d'entre eux sont là pour protéger le registrant. Et donc, cet accord, quand il s'agit des registraires, les registraires doivent être conformes aux politiques de consensus qui sont sur le site ICANN. Une de ces politiques parle des transferts entre le registre et le registraire, c'est une des politiques qui est très importante. C'est ce qu'on prend en compte quand on veut transférer le nom de domaine GTLD d'un registraire à un autre. Donc, on va revenir au diagramme précédent. Vous aurez peut-être cette situation, j'en ai pas encore parlé, mais pas sur les registraires. Pas tous les registraires accrédités offrent des services d'inscription. Il y a aussi des entités qui ne sont pas accréditées par ICANN et qui, pour certaines raisons, ne veulent pas ou ne peuvent pas être accrédités, registraires accrédités d'ICANN. Donc, ils vont entrer dans un contrat, dans un accord avec le registraire. Dans ce cas-là, vous voyez que les registrants ont un accord avec le revendeur et le revendeur avec le registraire. Mais même dans cette situation, il y a quand même un accord d'inscription entre le registrant et le registraire, qui est très important parce que ça met en place les droits et les obligations des deux parties et cela protège le registrant. Quand il s'agit des CCTLD, les règlements vont varier entre chaque CCTLD, donc je ne vais pas donner d'exemple. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, sur ce qui s'applique à certains CCTLD, vous devriez contacter l'opérateur qui correspond. J'ai donc un lien. Vous verrez que cette présentation sera sur le site web de ICANN. Donc, vous pouvez toujours y retourner plus tard. Choisir un registreur. Nous avons un site web qui s'appelle internic.net où vous avez donc toute la liste de tous les registraires accrédités par ICANN. Cela concerne encore une fois les GTLD. Comme vous voyez sur cette diapo, certains d'entre eux ont le logo de 2009 parce qu'il n'y a pas de version du contrat d'accord avec la plupart d'entre eux ont la nouvelle version qui a des nouvelles provisions qui ajoute un petit peu plus de protection supplémentaire au registre. Il y a un problème. S'il y a un problème, comment est-ce que ICANN peut aider? ICANN peut aider quand il s'agit des violations de contrats, des registres ou des registraires ou des politiques de consensus par un registre ou un registraire qui est contenu dans ce contrat, dans cet accord. Il y a d'autres problèmes que ICANN ne peut pas adresser, des issues de propriétariat. Il faut donc dans ce cas-là s'adresser à un tribunal ou autre. Il y a des problèmes contractuels entre les registrants, les registraires et ou les revendeurs. Et aussi il y a des problèmes de CCTLD, d'accréditation pour les GTLD. Alors, c'est les problèmes qui concernent tout ce qui a à faire avec l'utilisation des noms de domaine, les sites, les spams, etc. Le pourriel, disons, ce n'est pas dans les compétences de l'ICANN. Si vous voulez plus d'informations, le site Eternit, vous avez aussi la section registraire du site ICANN et vous pouvez aussi envoyer un courriel à registrar@icann.org si vous avez d'autres questions. Merci. Nous devons avoir le micro pour les questions, pour que les gens qui sont à distance puissent nous suivre aussi. Comment? Qui a la capacité d'aller devant l'ICANN pour les plaintes? Quand est-ce qu'un registrant peut aller devant l'ICANN et avoir une plainte si le registrant pense que, par exemple, un registraire a cassé ou a manqué à une des positions, une provision sur dans le contrat ou des politiques de consensus, le registrant peut contacter ICANN et soumettre une plainte vis-à-vis du registraire. Ici et ensuite, je vais aller là. Je fais partie d'une compagnie qui a fait une application pour un nouveau GTLD. J'espère qu'on va les obtenir dans le proche avenir. On doit trouver donc un registraire, si je comprends bien. Nous devons accepter les registraires qui sont accrédités par ICANN à cause des contrats avec ICANN pour pouvoir enregistrer ou inscrire un domaine sous les nouveaux GTLD. Donc, il faut que ce soit n'importe quel registraire accrédité à ICANN. Oui, chaque registraire accrédité par ICANN aura la capacité ou la possibilité d'ajouter n'importe quel GTLD qui sera créé dans le futur. Donc, on doit accepter n'importe quel de ces registraires accrédités. Est-ce qu'on peut accepter ceux qui ne sont pas accrédités par ICANN? Vous ne serez pas capable de fournir les services à travers les compagnies qui ne sont pas accréditées par ICANN. Maintenant, sous le système courant, il y a des domaines de premier niveau qui sont sponsorisés, ou qui ne sont pas sponsorisés. Ceux qui ne sont pas sponsorisés peuvent accepter toutes les requêtes. Pour ceux qui sont sous le sponsor, qui sont sponsorisés, ils ont le droit de choisir d'entrer un contrat avec tel ou tel registraire plutôt que d'un autre registraire. Je ne sais pas exactement en détail ce que ce sera dans le futur pour les futurs opérateurs de CCTLD. Donc, en résumé, un nouveau GTLD, on peut l'enregistrer, l'inscrire de nouveau à travers. Vous pouvez seulement les inscrire avec un registraire qui est accrédité par l'ICANN. Sous la procédure courante. Oui, c'est correct. Je m'appelle Elal, Telecom Regulatory, dans l'Oman. Ma question, c'est que à propos des CCTLD, nous savons que c'est la pratique commune et le meilleur modèle d'avoir un registraire et des registres registrants, donc ce système. Dans le cas où un CCTLD, dans le cas où il n'y a pas de registraire qui soit qualifié, est-ce que le registre peut-être peut devenir registraire ou pas? Oui, il existe déjà des CCTLD où le registrant peut aller directement vers le registre, l'opérateur de registre pour s'inscrire, pour faire une demande d'un nom de domaine. Il y a des modèles différents. Certains d'entre eux doivent vous faire passer par un registre. Certains d'autres utilisent le système de registraire. C'est la même chose pour les GTLD. Il y en a même qui ont les deux systèmes en place en parallèle. Mais ce serait accepté vis-à-vis des régulations ICANN. Ce n'est pas ICANN qui détermine comment un CCTLD sera géré. C'est le CCTLD qui décide lui-même en conformité avec la législation locale ou aussi avec les conditions des gouvernements locaux. Gary Campbell de Jamaïque. Les CCTLD sont gérés par des corps indépendants différents. Pour les GTLD, est-ce que c'est fait seulement par ICANN ou est-ce qu'il y a d'autres corps qui sont inclus ou est-ce que c'est quelque chose qui est fait spécifiquement par ICANN? Il y a un opérateur de registre pour chaque GTLD de tout aussi. Certains GTLD qui existaient déjà avant ICANN, qui avaient déjà leur opérateur de registre. Certains d'entre eux ont été créés après que ICANN soit créé. Il y a eu, donc en 2003, il y avait un moment où ICANN a laissé la création d'un nombre limité de GTLD. Certaines entités ont fait une demande pour la création de plusieurs GTLD. Certains ont été acceptés et les demandeurs qui pouvaient démontrer qu'ils pouvaient opérer en tant qu'opérateurs de registre sont devenus opérateurs de registre pour un des GTLD pour lesquels ils avaient fait une demande. Merci, Steve. De rien. Je m'appelle Victor Deman. Je suis un ancien nouveau boursier du Cameroun. Je suis très intéressé par l'industrie du DNS. Il y a peut-être 2000 registraires accrédités et il y en a peut-être que 5 en Afrique. Pour beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas si ICANN pourrait essayer de mettre en place un processus pour essayer de soutenir un accord joint et mettre en place quelque chose durant l'avenir du nouveau GTLD, du processus d'application de demande pour les nouveaux GTLD pour supporter les pays en voie de développement pour que ces pays-là soient inclus dans le processus. Comment est-ce que ICANN pourrait aider les compagnies pour le monde en voie de développement pour que ces compagnies deviennent des registraires accrédités? Parce que l'environnement de commercial n'est pas le même. Si je vais à travers un registre accrédité par ICANN, quand je regarde les documents qu'ils proposent, ce n'est pas si simple que ça pour des compagnies qui viennent du monde en voie de développement, pour que nous puissions, quand il s'agit des assurances ou des requêtes financières. Je vais répondre en deux parties. Si vous avez considéré d'accréditer votre compagnie et vous avez connu des obstacles sur votre voie, peut-être vous devriez me parler directement, je vais dire face à face, afin que nous puissions voir s'il y a vraiment un obstacle, s'il y a une manière de résoudre le problème. Parce que chaque applicant, chaque demandeur a un problème spécifique. C'est difficile de vous donner une réponse générale. Ce que je peux faire, je peux vous dire, en général, il y a une politique qui s'appelle la déclaration d'accréditation, qui met en place les critères pour toutes les entités qui veulent demander une accréditation. En tant qu'ICANN, en tant que personnel ICANN, par exemple, n'importe quelle politique ne va pas forcément décider de changer les contenus qui sont inclus dans les politiques. Ça devrait être commencé par le GNSO et suivi pour suivre le processus de développement de la politique dans cette situation. Et s'il y a un changement qui est initié de cette politique, imaginons que un demandeur a besoin de moins de capital en liquide ou qu'un demandeur a besoin de moins de couverture d'assurance, par exemple. Donc, ce processus, s'il arrive au bout, s'il est finalisé, nous permettrait de changer ces politiques, mais jusqu'à ce que cela se passe comme ça, en tant que membre du personnel à ICANN, je dois rester le plus proche possible des politiques, suivre les politiques. Mais venez me voir plus tard et nous verrons quel problème vous avez eu exactement la raison pour laquelle vous n'avez pas demandé pour l'accréditation. Quelque chose qui va aider peut-être la conversation, c'est que avec les nouveaux thèmes de JTLD, il y a aussi un soutien pour les pays en voie de développement. Et on parlera de ça un peu plus dans la présentation qui va suivre. Vous avez mentionné quelque chose à propos des sponsors des GTLD. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets à ce sujet? C'est une des questions. Et la deuxième question, c'est est-ce que les registres peuvent devenir registraires et est-ce qu'ils peuvent venir des registraires exclusifs? En premier, la première partie de la réponse, cela concerne seulement les GTLD qui existent actuellement. Vous avez les GTL qui ne sont pas sponsorisés, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les registraires qui sont accrédités par ICANN peuvent ajouter ces GTLD aux accréditations, à ces accréditations. Une autre partie des registres accrédités sont des registres sponsorisés, parce qu'ils ont des GTLD qui sont sponsorisés. Pourquoi sponsorisés? Parce qu'il y a une charte spécifique avec des conditions pour inscrire le nom de domaine et ce genre de GTLD. Et il y a, ou alors ces registres doivent avoir un peu plus de liberté de choisir quel registraire. Et ils vont accepter de travailler avec lesquels ils vont accepter de travailler. Par exemple, point muséum. Dans le cas des nouveaux GTLD comme celui-là, il n'y a pas de distinction telle entre ceux qui sont sponsorisés, les GTLD qui sont sponsorisés et non sponsorisés. Dans le guide des demandeurs, des inscriptions, ce sont des GTLD qui sont basés sur les communautés, qui sont géographiques. Je ne sais pas exactement en détail quel niveau de liberté les GTLD futurs auront. dans leur acceptation de tel ou tel registraire. Deuxième question. Dans le contrat des registres couramment actuellement inscrits, le registre ne peuvent pas être propriétaire de plus de 15% d'un registraire accrédité et le registre ne peut pas agir en tant qu'enregistraire. Oui, registraire. Ces provisions, c'est ce qui rend l'intégration verticale possible. Dans le guide des demandeurs pour les nouveaux de demande des nouveaux GTLD, cette intégration verticale a été enlevée, ôtée. Cela veut dire, en fait, c'est qu'un registre sera capable de pouvoir être propriétaire d'un registraire ou dans l'autre sens, ou dans le sens contraire. Maintenant, je ne suis pas sûre si la même entité légale pourra être en même temps un registre et un registraire.
Et en tous les cas, s'il est possible, et l'entité qui est un registre aimerait également un registraire, elle devrait suivre le processus d'accréditation ICANN afin de devenir un registraire. La question est inaudible. Passons à autre chose. Carlo va parler des registres. Peut-être que certaines questions seront répondues grâce à la présentation et vous pourrez ensuite répondre aux questions qui seront posées à la fin de la présentation. Il y aura également des sessions spécifiques sur les nouveaux GTLD. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur le contenu du guide du candidat, là est l'endroit approprié pour poser vos questions.